Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Club. Wow. Là, on parle. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre Côté Club. Nous sommes en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique avec une équipe au complet car c'est le retour de Marion Guilbeault. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Côté Club, une heure de musique pour remettre le son avec le meilleur de la scène française et francophone et plus ses affinités. Avec nous ce soir, Garou. Je vois Marion qui me fait mes noms, mais si, Garou, alias Robert Charlebois et Tony Franck, bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Robert Charlebois qui revient en France, Paris, pour repérer les lieux de son prochain spectacle événement, Robert en Charlebois Scope, un concert sur près de 60 ans de carrière et ce sera, et ce n'est pas une blague, le 1er avril au Grand Rex à Paris. À ses côtés, Tony Franck qui a shooté Johnny Hallyday, ça donne une encyclopédie de photos, titre Johnny Hallyday, les années Tony Franck, de 65 à 2014, c'est Johnny version Salut les copains ou Vieille canaille, l'histoire d'une amitié qui passe aussi par le regard. Marion ?
Eh bien, à part la concert de Robert Charlebois, le livre de Tony Franck, que se passe-t-il dans l'actualité musicale francophone ? La réponse, elle est bien sûr dans le fil vers 22h30.
Et elle sera vite répondue. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
On ouvre avec un Boom Boom Baby signé Juliette Armanet qui va bientôt sortir une réédition augmentée de 5 inédits le 4 novembre prochain, histoire de rallumer le feu. Thank you. Robert Charlebois et Tony Frank, ça fait boum boum baby dans Côté Club, ce sont nos invités. Robert Charlebois, monument national de la chanson au Québec. Tony Frank, le photographe attitré de Johnny Hallyday qui a vu défiler devant son objectif toutes les stars, dont vous, Robert Charlebois. J'ai vu des photos qui doivent dater de la fin des années 60, début 70, donc vous vous connaissez depuis...
Ça sert à ça aussi, faire la promotion.
On retrouve des potes.
Des copains, des miracles de la vie, j'appelle ça. Et puis j'en ai beaucoup, en 60 ans de carrière, je me suis fait pas mal de copains dans le métier. Et Tony faisait partie de la première bande des années psychédéliques dans le temps que ma femme travaillait à Europe 1 avec Exactement. Marie-France Brière. Et on a des années psychédéliques dont on dit que ceux qui s'en souviennent, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu. Mais moi, je les ai bien vécu, puis j'en ai raté des grands bouts. Mais on ne se quittait pas, mais on était une bande assez...
Vous vous souvenez des premières séances avec Robert Charlebois?
Non.
Ça date, hein. C'était... J'étais allé photographier au Québec ou quoi?
Parce que je vois les dans la nature et tout ça. Peut-être au Québec, oui. Il y a des choses dont je me souviens.
Mais je me souviens qu'il m'a photographié.
Ah oui, ça c'est certain.
Ouais.
On peut le voir sur votre site. Ouais. En fait, vous aviez tous les deux le même âge à l'époque, dans les années 60. Vous aviez 20 ans, une vingtaine d'années.
Ben 25, oui. Ouais.
C'était un jeune chanteur shooté par un jeune photographe. J'imagine que ça facilitait la rencontre, en fait. Le fait que vous ayez le même âge, l'un devant l'objectif, l'autre
et des amis communs, comme Marie-France, et qui était sa grande amie, Marie-France Brière, on va dire. Oui, qui s'occupe du Festival d'Angoulême.
Absolument, avec Dominique Besnéard.
Ouais, et on se revoit toujours, souvent, en tout cas.
Ah oui, vous avez des fidélités en amitié.
Ouais, absolument. Ouais.
Robert Charlebois, quel rapport avez-vous avec votre propre image?
Je sais pas, je me regarde pas trop souvent. Vous aimeriez rentrer chez vous avec une tête comme ça?
J'essaie
d'éviter. Tony m'avait grossi le nez un jour.
Ah oui,
oui. Tu devrais te faire refaire le nez le même, mais en plus gros. Ça marcherait mieux encore.
Il est facile à photographier quand même.
Bien évidemment.
C'est un vrai visage, quoi.
Oui, ça c'est une gueule, quoi.
Bah, une gueule.
Mais c'est ça qui est bien. Regardez quand j'ai fait des photos de Gainsbourg, c'est une gueule, Gainsbourg. Mais c'est ça qui est intéressant. Les gens avec le visage lisse et tout ça, il ne se passe rien.
Mais ce que tu dis là, c'est que même chose pour des fois les shows ou les chansons, on est des mauvais juges pour soi-même. Des fois, il y a des photos de moi que j'aime, puis les gens disent « Oui, mais c'est insignifiant, on ne te reconnaît pas. » Tu sais, quand je suis pas photographié de dos, surtout. Ben, écoute, c'est ce que je préfère, c'est les photos de moi de dos.
C'est incroyable que tu dises ça, parce que Véronique Sanson, il y a un livre qui sort sur elle, et elle dit que les photos qu'elle préfère, c'est elle de dos. Exactement.
Ah bon, on m'a piqué ma blague.
Bah, oui.
Demandez des droits d'auteur alors. Demandez des droits d'auteur, en plus c'est publié. Ah, ouais. Il y a des pochettes d'albums de Charlebois qui véritablement ont marqué. Moi je me souviens de celle où vous jouez au golf, c'est pour Swing Charlebois Swing.
Oui, il y a que la photo qui vous a marqué parce que...
Ah non, il y a un titre qui m'a
Johnny
marqué.
Johnny m'a dit un jour, il dit la meilleure chose qu'il y a sur ton album,
non,
c'est la photo.
Mais c'est pas vrai, on va écouter un extrait tout à l'heure, il y a un titre formidable.
Ah bon,
et puis aussi celle avec le casque fleuri.
De guerre.
Ouais, le casque de guerre. Ouais.
Ça c'était avant Lindbergh, là on parle de 67, c'était la guerre du Vietnam.
C'était le troisième album ou le deuxième ou le troisième?
Troisième album. Ouais, où il y a quelques jolies chansons, mais ça n'a pas traversé non plus. Mais dans mes pires succès, un jour, je ferai une compilation de mes chansons les plus atroces. Puis, j'ai l'embarras du choix.
C'est vrai. Vous avez suivi la carrière et le parcours de Tony Frank, Robert Charlebois?
Absolument, absolument. Ouais, ouais.
La photo de Melody Nelson.
Et même qui devait, Laurence, qui t'embrasse, alors c'est le temps.
C'est qui Laurence?
C'est ma femme.
D'accord, ok.
Donc, si elle nous écoute, j'embrasse.
Si je suis là, c'est en grande partie à cause de ma femme aujourd'hui.
Ah bon, c'est vrai?
Ah oui, parce que? Ah, parce qu'elle prend soin de moi, puis je suis dans une... Je peux pas dire que ça va bien parce que ça serait indécent, ne me faites pas dire que ça va bien, mais je suis dans une forme éblouissante pour quelqu'un qui est décalé, là.
C'est vrai, vous êtes en
plein
jet lag, en effet.
Il y a des avions qui décalent.
Côté musique, vous qui avez côtoyé Johnny, mais aussi Gainsbourg, mais aussi Christophe, enfin, vous avez côtoyé tout le monde, vous avez eu, à un moment donné, un groupe, vous avez chanté dans... Vous avez été musicien, comme
tout
le monde?
Non, pas du tout.
Non,
rien du tout. Je crois que j'ai fait de la photo parce que je sentais faux.
C'est un musicien,
c'est ça. Un musicien.
Musicien.
Oui, ben vous savez ce que c'est, vous, un musicien.
Ben oui, j'en ai 10.
Ouais, sur scène,
je sais pas ce que c'est que ça, justement.
Eh ben, on va voir.
Ça m'intrigue.
Robert Charlebois, avant d'entrer en studio, on vous a demandé quel titre vous aimeriez entendre de votre répertoire. Et vous nous avez proposé Moi Tarzan, Toi Jane. On est dans les années 80. Pour quelle raison?
Parce que c'est la première chanson que j'ai faite en collaboration avec Luc Plamondon, qui est notre parolier le plus populaire, célèbre, habile, etc.
Qu'on connaît aussi, bien sûr. Starmania,
ici, vous ne le connaissez pas, non?
Ah si, ici,
il
on connaît
que
très
Notre-Dame
bien.
De Paris.
Tu parles!
Et Starmania, oui, voilà. qui ressort la semaine prochaine. Oui. Voilà, donc, Luc va être là, puis je vais être là aussi. Et donc, ça sert à ça, la promotion. Voir les vieux copains, comme on disait. Et donc, il y a une femme, une dame qui est très connue au Québec, qui serait un genre de mini Grégoire pour vous, qui avait écrit une pièce, Moi Tarzan, toi Jane. Et c'est justement le problème des transgenres et des YEL aujourd'hui. Et je trouve que cette chanson-là, bon, c'est un reggae un peu, comment on dit, des années 80, c'est-à-dire trop rapide, trop poli, trop clean, trop arrangé. Mais le texte, il y a beaucoup d'expressions québécoises et tout à fait contemporain, parce que j'ai plein de copains dans mon entourage, de parents qui disent mais notre fille veut devenir un garçon, puis c'est pas des blagues, là, ça arrive pour vrai. Et on est en plein là-dedans, et puis, vu que je l'ai pas chanté depuis une trentaine d'années, je serais curieux de la réécouter.
Ah, vous l'avez
mettez
même dans votre répertoire ?
Je réécoute jamais mes vieilles chansons, mais vu que vous m'obligez ce soir, j'ai choisi.
C'est vrai qu'on vous oblige.
J'ai pas le choix, il m'a dit.
Le fusil sur la tempe.
Tu descends de ma côte, on est fait l'un pour l'autre, moi Tarzan, toi Jane. Mais plus on vit ensemble, et moins on se ressemble, moi Tarzan, toi Jane. Depuis que je suis avec toi, y a deux personnes en moi, moi Tarzan, toi Jane. Parle-en à personne, mais des fois ce serait le fun si c'était toi Tarzan, moi Jane. Pour être un homme, il faut que tu fasses du sport. Il faut que tu sois le plus fort. Faut que t'aies l'air d'un cowboy. Puis faut que tu lises Playboy. Il faut que tu fasses la guerre. Il faut que tu boives de la bière. Il faut que tu sois intelligent. Puis que tu gagnes bien de l'argent. C'est fatigant, c'est effrayant. Ça n'a pas de maudit bon sens. Avec les femmes, faudrait pouvoir scorer comme on score au hockey. Même si des fois, pour changer de rôle, on voudrait juste se mettre la tête sur une épaule. Des fois, moi aussi, j'aurais envie de rester au lit pendant que j'irais gagner ma vie. Pis ris pas de moi si je bois du cream soda. Moi, la bière, j'aime pas ça. Pis j'suis pas tapette pour ça. J'suis pas tapette pour ça. Un gostan de se prendre pour Superman. Quel est l'homme qui n'a pas au moins une fois déjà rêvé d'être une femme? Tu descends de ma côte.
Cette chanson, Robert Charlebois, je vous vois rire en l'écoutant.
Ah ben, il y a des mots qui passent moins aujourd'hui.
Ah, ça c'est évident.
Le terme gay n'avait pas été encore inventé à l'époque.
À l'époque.
Et c'est vrai que c'est plus élégant.
Cette chanson, vous ne l'avez jamais rechantée sur scène depuis quelques années?
Depuis longtemps. Oui.
Elle mériterait d'être reprise au Grand
oui,
Rex?
Oui. Par un jeune. et avec un nouvel arrangement, un reggae plus féroce, plus sévère, plus engagé, quoi. Mais, par un vrai trans, hein. Mais vous en avez en trans?
Mais bien sûr, Robert Charlebois, de retour à Paris sur la scène du Grand Rex pour un concert Robert en Charleboiscope. En Charleboiscope?
Oui.
Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que vous avez... Bon, j'invente pas le show à grand déploiement.
Non.
Mais Johnny nous en a... En feuilletant le livre de Tony, je vois des choses... Il nous a donné des cadeaux immenses. Et puis Pink Floyd et bien d'autres aussi. Mais moi, c'est différent. Vous allez voir,
Qu'est-ce que vous avez imaginé?
Ben, premièrement, il y a des extraits des films dans lesquels j'ai tourné.
Oui, parce que vous avez une carrière de cinéma.
Oui, mais pas pour montrer, parce que je, comme disait Sergio Leone, un jour, il me dit, tu es un chanteur ordinaire, c'est toi qui les chantes. Tu es un acteur ordinaire, c'est moi qui te les dis. Mais tu vas faire une très longue carrière parce que tu as une femme extraordinaire.
C'est agréable.
Et c'est vrai aussi, il m'a dit ça. Il est bon, le pauvre, depuis. Là. Et tu étais là, d'ailleurs, la première du film avec Terence Hill et Miu Miu.
Oui, ça s'appelait Un génie, deux associés et une cloche.
C'est ce soir-là qu'il m'avait dit
ça. C'est un western.
Et c'est la plus belle chose que, enfin, que j'ai entendu sur ma femme, c'est ça. Et parce que c'est elle qui avait organisé toute la soirée. Puis Sergio, il s'en foutait, lui, qu'il y ait Depardieu dans la salle, ou Patrick Dewaere et Miu Miu et tout ça. Lui, c'était bon. La bouffe était bonne. C'est ça qu'il laissait ça. Il m'a dit ça aux toilettes.
Une bonne réussite. Une soirée réussie avec de la bonne bouffe.
La bouffe était bonne. Parce que une belle soirée sans bonne bouffe, pour lui, ça existe.
Ça marchait pas. Bien sûr, dans ce titre Charles Boiscope, on pense Cinémascope, au parcours cinéma que vous avez eu dès le milieu des années 60, d'ailleurs. Le premier rôle de Jusqu'au cœur, une comédie de Jean-Pierre Lefebvre, il en aura d'autres. Le western dont vous parliez Miu Miu, c'était un génie, deux associés et une cloche. Parce qu'au fait, au départ, vous aviez une formation théâtrale.
Oui, exactement, comme Aznavour. Là. Je sais pas s'il a fait l'école, Aznavour, mais c'était un bon acteur aussi. Je veux pas le détrôner. Là. Vous en faites pas. Je pense que je vais arrêter à 82. Je n'attendrai pas 92. Mais, comment vous dire? Ouais. Et puis, une formation, et c'est ça que, dans ce spectacle-là, l'écran devient un accessoire du sorcier. Donc, on peut pas se planter. Là. Tu peux pas rajouter un couplet ou une blague.
Ah, non,
les musiciens jouent, c'est synchronisé.
Vous avez
musique,
10 musiciens,
images,
et derrière,
10
un
musiciens. Parce qu'il n'y a pas que du cinéma, il y a des bandes dessinées, il y a toutes sortes de trucs. Il y a
des archives, j'imagine.
Ouais, des mots en trois dimensions qui tournent au plafond, des mots inventés par les gens du charme.
Donc ça veut dire que tout est chronométré.
Absolument. Mais on ne joue pas sur un clic. Là,
non, ça j'ai bien compris.
Mais on ne peut pas, mettons, rajouter un couplet. Là, on fout tout le monde. Ou en sauter un plutôt, parce qu'avec les années, on est porté à en sauter des couplets.
À propos de cette formation théâtrale, c'était quoi l'Ostitcho?
L'Ostitcho.
On présente ça comme une révolution culturelle au Québec. C'était quoi?
C'était un show complètement déstructuré, parce que moi, j'avais vécu à Los Angeles, tu sais, dans le temps du Peace and Love, Hate Ashbury, tout ça, les débuts de Janis, de Hendrix, tout ça. Et je voulais pas faire une pièce de théâtre, une revue, genre comme les frères Jacques avec des chapeaux et des parapluies, tu sais. J'avais vu la lumière, une minute, j'arrivais d'Hollywood, puis j'avais fumé des gros pétards et d'autres choses de pire. Alors on a... Comme ça, il y avait un metteur en scène qui faisait partie des compagnons de la chanson autrefois, qui s'appelait Paul Buissonneau. Et on lui doit tout, parce qu'à un moment donné, il dit, mais les mecs, c'est trop fort, là, c'est un français. Oui, le public va fuir et tout. Puis, à un moment donné, on jouait fort, puis il dit, fourrez-vous-le dans le cul, votre hostie de show. J'ai dit, fuck, c'est le titre que je cherchais. Là, à trois jours de la première, il nous laisse en plan comme ça. Puis là, on ne sait pas trop quoi faire. On n'a plus de metteur en scène. Alors, il y a Louise Forestier et moi. Bon, on avait des chansons comme Lindbergh, Engagement. Et un monologuiste qui était un compromis entre Guy Bedos et Raymond Devos, qui s'appelle Yvon Deschamps, qui, lui, nous faisait pisser dans nos culottes quand il racontait autour d'une table. Puis il voulait qu'on joue, que moi je fasse le boss, puis Louise fasse la secrétaire, puis Mouffe la patronne, ou je sais pas quoi. Puis j'ai dit, mais Yvon, on pisse dans nos culottes, va sur scène, moi, je te ferai des punchs au piano, et puis tu racontes ça comme tu nous fais. Puis là, on avait un trac, puis on s'est dit, on va prendre une leçon d'humilité, là, ce soir, comme jamais. Ouais. Et à la fin, on finissait avec l'assassinat de Martin Luther King et un texte de Saint-Jean de Patmos que moi j'avais mis en musique, l'Apocalypse, là, dans son... le tiers de la mer devint du sang, là, tout ce qui arrive aujourd'hui, le tiers des poissons mourus, etc. Bon. Et là, à la fin du show, pas un applaudissement, rien, pas un dans les coulisses, puis on a la tête entre les jambes. T'as qu'on entend une vague, ouais, les gens debout dans la salle et tout. Puis on avait improvisé. Puis le lendemain...
Il fallait refaire.
Oui, il fallait le refaire. Alors, les gens, les lendemains, il y en a même qui étaient revenus pour ça, parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'ils avaient vu. Là, on essayait de refaire la même chose. Mais évidemment, en mieux et en plus relax, en plus détendu, à chaque soir. Donc, et puis, moi, je soignais mon visuel. Les musiciens n'étaient pas sur la scène, ils étaient au plafond, tu comprends? Ils étaient dans des échafaudages au-dessus de nous. Donc, j'ai toute ma vie... J'ai fait des shows, bon, celui en patin en glace, t'avais peut-être vu au Palais des Congrès avec Nanette. Même Johnny était venu à celui-là. Ouais. Et puis, il croyait pas ça que je patinais avec des lames. Parce que c'était un truc comme dans bougie de chandelle. De la cire sur laquelle, les gens ils me prenaient pour Candeloro, mais je patine. Je patine comme la moyenne des Québécois, sauf qu'il n'y a pas un Français sur 1000 qui sait patiner.
À part Laurent Goumard.
Au Québécois, vous êtes un grand patineur.
J'ai fait du patinage artistique.
Oh là là, bon,
tu parles.
Vous comprenez de quoi je parle.
Ah bah, tu parles.
Voilà. Et le gars, il m'a dit, Quiconque sait patiner sur de la vraie glace, après 10 minutes, tu vas t'habituer, tu peux te patiner. Donc là, je suis pogné pour amener, parce que les critiques en ont tellement parlé que j'ai été pogné pour amener ça en tournée tout le temps. Ouais. Le gars se levait à 4h30 du matin pour installer la fausse glace avant qu'arrivent les amplis, les sonos, etc. Ouais. Donc, celui-là, c'est un événement, parce que si on le fait deux fois, c'est pas un événement. Et donc, on peut le faire une fois.
Ah, c'est celui qu'on va voir le premier.
Celui-là, ouais, le Charlebois-Scope. Ouais. Et comment vous dire, j'avais... Quand t'as fait tout ce que tu peux imaginer en musique, rhythm and blues, ukulélé, orchestre symphonique, j'ai tout fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut vraiment étonner les gens? Et j'ai fait ce show-là. L'année de la COVID, j'ai gagné, tu sais, vous avez des victoires, nous, on a des Félix, et puis le show de l'année. Mais le show de l'année, l'année de la COVID, c'est comme, tu gagnes un bateau puis t'as pas de lac, tu sais.
ça sert à rien.
Ouais, ça sert à rien du tout. Mais les gens ne se sont pas fait rembourser. Donc, quand les spectacles ont recommencé, moi, j'avais déjà des salles pleines.
Ah ouais.
Et après, le bouche à oreille a fait que j'ai fait 13 supplémentaires à la Place des Arts de Montréal, qui est comme le Grand Rex, ici, à peu près.
On va voir ce que ça va donner, donc, le 1er avril.
Et pourquoi tu fais
c'est pas une blague.
Pourquoi tu fais un seul soir?
Ben, ça sera pas un événement. Un événement, si tu fais deux soirs, c'est plus un événement.
Ah oui, mais au Québec, tu fais plusieurs dates.
Mais... Ah oui, mais au Québec, c'est pas un événement. Au Québec, c'est ma carrière qui continue.
Alors qu'en France, c'est un événement.
Ben oui. Puis je le fais en Belgique aussi.
C'est un événement.
L'avant-veille, je le fais le 30 mars, je le fais en Belgique. Oui, parce que je dois tout à la Belgique. Tu sais que j'embrasse le sol de la Belgique.
Qu'est-ce que vous devez à la Belgique?
Ben, et j'ai créé des bières.
Mais oui, c'est ça.
Où tu penses que j'ai pris mes...
La carrière d'homme d'affaires.
Mes idées de trappiste, oui.
De Robert Charlebois. Juste une question, parce que.
Je suis trappiste, mais. Tout à l'heure, juste
vous parliez de ces shows que vous avez créés, même déjà à l'époque, dans les années 65-68, hein, c'est ça? L'Hostie Show, c'est à ce moment-là.
Plus tard,
il y a eu des shows très particuliers en France qui se sont très, très mal passés. On se souvient, enfin, moi, je m'en souviens pas, mais on en parle toujours, de cet Olympia où même, le public était absolument fou furieux. Vous avez balancé quelque chose sur le public.
Une batterie sur le public. Parce que là, j'ai deux batteurs.
Bah, gardez-les sur scène. Gardez-les.
Oui, non, mais moi-même, je joue de la batterie dans le show. Et on a trompette, sax, trombone, violon électrique, clavier, tout, trois guitares électriques. Oh, mais c'est un gros, gros, gros show.
Juste une question, parce qu'on lit toujours que vous avez eu une tournée houleuse avec Léo Ferré. C'était quoi cette histoire?
Ben, c'était
Robert Charlebois.
À l'époque, mon Dieu, où Léo. Avait fait quelques gaffes, je pense qu'il était allé chanter malgré la mai 68.
Ah, c'est ça, d'accord.
Les gens crachaient sur son pantalon en disant « t'es pas avec nous », etc. Et un gars nous voyait comme, c'est prétentieux de dire ça, mais il voyait un peu comme Verlaine et Rimbaud, tu sais. On faisait un show de deux heures, mais sans entracte. Léo arrivait, moi je sortais en Fu Manchu, là, tu sais, dans la boucane, puis un groupe qui jouait fort, mais les Rolling Stones, c'était Barbara à côté de nous, là. Et là, Léo arrivait, il avait les oreilles de Gainsbourg, Pépé, etc. Puis, ça s'est mal passé parce que c'était dans les années Pompidou, puis c'était une période électorale, et les gens confondaient. Ben, Léo, ça a toujours été un anarchiste musical et poétique, mais. Les gens confondaient un peu la politique avec tout, puis ils arrachaient nos affiches, puis ils lançaient des boulons, puis... Enfin, c'est long à raconter, mais un soir, quelqu'un m'a lancé un mégot de cigarette du balcon pendant que j'étais en train de chanter « Ordinaire absorbé, je voudrais qu'on soit tous des frères », puis tu sais, autour de moi, il y a la guerre. Ah. Puis là, je suis là, puis il y a des gens qui me font « Ah !» comme ça. Puis il y a quelqu'un qui arrive pour me donner un coup de derrière la tête, mais il y avait le mégot qui prenait dans mes cheveux, puis mes cheveux commençaient à fumer et à flamber. Et là, ça a viré en bagarre générale, parce que moi, le gars qui voulait me l'enlever, le mégot, je le connaissais pas. Moi, je vois ça dans le miroir du Steinway, là, tu sais, dans le
piano, hein.
Dans le vernis du piano. Il y avait pas de miroir, mais je vois quelqu'un qui vient comme ça. Et là, mon directeur de tournée lui fait un tackle comme au football. Après ça, l'autre dit non, il a mal entendu. Ping! Bagarre générale. Léo, il a peur, il est déjà rendu au bistrot d'en face. Faire peur à Léo Ferré, ça en prend quand même. Et puis, après ça, il y a des gens qui étaient tellement sûrs que ça faisait partie du show. Ça, c'était arrivé, je crois, à Toulouse. Puis là, on est à Bordeaux.
Ils
étaient sûrs qu'il y avait une bagarre comme ça tous les soirs. C'est ce qu'il a fait trouver de plus merveilleux dans tout le show. On a dit non, c'était vraiment un accident.
Robert Charlebois, dans le spectacle du 1er avril à Paris, est-ce qu'il y aura cette chanson? Est-ce qu'elle y sera?
Non.
Non, Petroleum, la chanson, avec derrière.
Avec Frank Zappa, qui produit, qui joue la guitare et qui chante avec moi à la fin. Il fait « Bus drivers with feeling only, give me some petroleum ». En tout cas, non, parce que c'est un show qui est, comme je te dis, il dure 100 minutes et il est... On a décidé de ne pas mettre de chansons en anglais.
Ah, c'est ça.
Au Québec, en ce moment, c'est... la chanson française est à l'agonie et ce n'est pas le temps d'en rajouter. Pas à l'agonie, est à l'extrême onction.
Ah bon?
Ah bah oui.
Et pourtant, on reçoit plein d'artistes québécois, des jeunes et des moins jeunes, mais quand même une énorme scène québécoise qui chante encore en français.
Ah, oui. Qui n'a jamais autant de visibilité, d'ailleurs, que ces dernières années ici en France.
Non, il y a des irrésistibles gaulois qui continuent, et heureusement, mais ils ne peuvent pas vivre. Parce que... moi, par exemple, j'ai un dernier album que j'ai fait avec un immense écrivain que vous connaissez pas en France.
Région du Charme. Qui a été votre parolier.
Avec laquelle j'ai fait en tout cas une trentaine de chansons sur 300.
Qui a failli avoir le prix Goncourt en 68.
Oui. Et puis d'après Jean-Marie Leclésio, c'est l'écrivain le plus important de la francophonie du 20e
siècle. Tout à fait, ouais.
Il sait de quoi il parle. Moi, j'appuie Leclésio aussi là-dessus.
Donc.
Là, j'ai fait un album complet des chansons du Charme avec le climat et tout. Et ça a été un succès extraordinaire. 360 000 écoutes sur Spotify. De l'album au complet, là.
Ah ouais.
Et ça m'a donné 847 $ canadiens.
Mais non, mais c'est ça.
Qui vaut 30 cents de moins que l'euro. Fait que.
Toujours le même problème.
Alors, imaginez. Si on n'est pas Ed Sheeran puis qu'on fait pas 3 milliards d'écoutes, lui, il fait 3 millions parce que c'est un centième. C'est scène par chanson. Puis là, pourquoi je dis que c'est à l'agonie, c'est que les paroliers professionnels, ils peuvent pas vivre avec un corps de scène, des Dabadi, des Plamondon, des Barboliviens. Il y en aura peut-être plus jamais. Donc, on va s'en aller vers une chanson de plus en plus amateur. Où il y a des gens passionnés. Il y a des poètes qui sont inarrêtables, comme il y a des chanteurs qui sont inarrêtables, qui le font par passion. Mais comment vont-ils faire pour en vivre? C'est ça, le vrai problème. Il y a juste M. Bruno Le Maire, qui, à un moment donné, il y a 2 ans, il s'est mis à parler de ça. J'avais beaucoup d'espoir, puis tout à coup, hop, c'est disparu. Justin Trudeau, pareil, quand il était dans l'opposition, « Tu vas voir, Robert, quand je vais être au pouvoir, je vais le régler votre problème. » Jamais, il n'y a personne à lever le petit doigt. Et tous ces GAFA là, ne payent aucun impôt dans...
Pas de royalty.
Pas de royalty au pays qui survole. Et c'est dramatique, c'est une baisse de 800% de notre valeur. Ceux qui ont des métiers qui se plaignent, là, pensez à ça des fois. Vous avez perdu la moitié ou 30% de votre valeur, mais nous, c'est 800% de notre valeur qu'on a perdu. Voilà.
Robert Charlebois.
Fin du message.
Robert Charlebois, je vous propose un petit détour par Haïti avant de retrouver Tony Franck et Marion Guilbeault avec le Wati Watia Zoré Band. C'est Rosemary Stanley et Marjolaine Carlin qui rendent hommage au répertoire du clochard céleste Alain Peters sur France Inter.
Étoiles, quatre matins finis, l'éveil guette mon corps comme les bien esquintés. Look à moi, joyeusement dessus la chaussée, le corps les bons, mais les cœurs les isés. Morceau là, zotti, vois-moi là pour chanter. Crois-moi, les pas bon pour la santé. Rassura, moins vite dessus mon là. Moi j'en sens le soin, la pas envie de mourir. Mal papa, oui t'es les radiants. Mal papa, 2 francs 50, là pas besoin. 7 francs 50, moi la besoin. Mal papa, oui t'es les radiants. Mal papa, 2 francs 50, là pas besoin. 7 francs 50, moi la besoin. Thank you.
santé morale. Quand il prend ton sabot, quand il veut punir, il dit oui, bon Dieu, même le diable est critique.
Le Wati Wati Azore Band dans Côté Club. Allez, on reprend le fil de l'émission avec Marion Guilbault.
Côté Club, le fil.
Grosse présence des chanteurs et chanteuses francophones dans le prochain Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Angèle dans le rôle de Falbala, Philippe Catherine dans celui du barde, Assurance Tout Risque, bien sûr. Il y aura également Aurel San, Big Flo et Oli au générique. On ne connaît pas encore leur rôle et c'est Mathieu Chédid qui va signer la musique du film. Avec lui, c'est sûr, le ciel ne leur tombera pas sur la tête.
Ça sent la victoire.
Un parfum en particulier?
Ça sent le laurier.
Coucou Jules.
Ce sont les voix de Jean-Louis Aubert, Sanseverino, Kent et bien d'autres qu'on retrouve non pas au générique d'Astérix, mais sur l'adaptation en français de cette chanson Vesna, créée initialement par un groupe ukrainien. Tous les bénéfices iront à l'UNICEF et c'est à télécharger dès minuit ce soir. I just need to tell you. Et cette voix, vous la reconnaissez, Laurent ?
Isabelle Adjani ?
Mais oui, avec le duo The Penelope. C'est pas la première fois que l'actrice enregistre avec eux. Il y avait eu une précédente expérience en 2019. Et cette nouvelle chanson, The Last Goodbye, est accompagnée d'un clip d'animation où l'héroïne de la reine Margot se transforme en égérie New Wave. Nouvelle vague toujours avec Étienne Dao, à l'honneur de Étienne Dao, A Secret Book, un livre d'anecdotes et de confidences. C'est signé Sophie Coma qui revient sur le tourbillon d'une vie artistique prolifique consacrée à sa passion pour la musique. Plus de 40 ans après la sortie de son premier disque, Mythomane, c'était en 1981.
Si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air, est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire ?
Taillez la roue.
Livre aussi pour Grand Corps Malade et Ben Mazuet qui publie chez Lattès Les Correspondances. C'est un recueil de lettres que les deux artistes se sont envoyées depuis presque 2 ans, tous les lundis, dans lesquelles ils échangent sur leur vision de leur métier, mais aussi sur leur quotidien et sur l'universel. C'est un ouvrage préfacé, bien sûr, par Gaël Faye, le troisième compère du Trouple Éphémère.
Salut Yael.
Salut Christelle.
Et on n'est pas des putains franges.
C'est clair.
Et on va leur dire.
Ok.
Parle à maman.
Livre encore avec Toutes pour la musique. C'est écrit par la journaliste Chloé Thibault sur les figures féminines qui ont façonné la pop d'hier et d'aujourd'hui. Parmi elles, Aretha Franklin, Spice Girls, Madonna, mais aussi les Françaises, Clara Luciani, Oshi ou encore Yael, qui revient sur le sexisme dans le milieu musical français. Elle accuse notamment l'animateur Koé de l'avoir embrassé sans son consentement en pleine émission. La prochaine fois, elle lui balancera par la main. (2004-2024, extinction de l'espèce. L'espèce, c'est Chaka Ponk. Après 20 ans d'existence, le groupe a annoncé sa séparation ainsi qu'une ultime tournée, un dernier album. Et c'est une décision prise pour préserver l'environnement. Le groupe a toujours été sensible à la cause écolo et tenté, malgré le gigantisme de leur tournée, de réduire leur impact au maximum, comme avec leur collectif The Freaks qui rassemble d'autres artistes engagés dans le même combat. Enfin, pour tous les wannabes, ceux et celles qui feront demain, sachez que l'appel à candidature des Inouïs 2023 du Printemps de Bourges est lancé. Si vous voulez jouer au Printemps de Bourges devant tous les professionnels de la profession et voir votre musique et carrière décoller, eh bien vous pouvez postuler jusqu'au 14 novembre sur le site réseau-printemps.com. Robert Charleroi, Tony Frank, un groupe qui arrête sa carrière pour préserver l'environnement, le sexisme dans le milieu musical, Isabelle Adjani qui fait de la pop, le générique du prochain Astérix Obélix. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Robert Charlebois.
Charleroi, vous avez dit.
Ouais. Non, c'est Charleroi. C'est un joli lapsus.
C'est magnifique.
C'est
magnifique.
Ouais, c'était pas mal.
Vous qui aimez la Belgique.
Vous gardez.
Pourquoi pas Charles III ?
Non, je préfère Charleroi.
Robert Charlebois, alors qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Je vous ai vu pour l'échec à Ponck, oui, le
dans,
les,
dans
la cause écologique.
Dans tout ce que vous avez dit,
oui.
Oh, il y a trop, là.
Il y avait beaucoup.
L'Astérix, ça me fait rire d'avance, c'est certain que je vais y aller. Après ça, la Gianni qui revient dans un clip, c'est intéressant aussi. Après ça,
Chaka Ponck qui annule pour des raisons écologiques,
qui arrête carrément sa
tournée. Ouais, ben oui, parce que c'est pour ça que j'ai pas amené mon groupe de rock ce soir, parce que ça prend beaucoup d'électricité, puis s'ils éteignent la Tour Eiffel, vous voyez, sortir les amplis ici, mais les gens téléphoneraient furieux.
Avec un acoustique.
Acoustique.
Et pour vous, Tony Franck?
Mais moi aussi, Chaka Ponck et le retour d'Adjani, je trouve. Je me souviens
les
que Gainsbourg avait fait un album, le premier
album,
un titre de,
pour Adjani. Mais Angèle et puis Philippe Catherine en assurance Tour X, faut pas rêver mieux, là, je pense.
Très bon casting.
Quelquefois j'ai envie de crier à la nuit, emmène-moi.
Côté.
Laurent Goumard.
Emmène-moi
jusqu'au bout de la nuit. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce titre, Tony Franck, en 67, j'ai crié à la nuit, Johnny Hallyday.
Oui, mais pas avec précision, parce qu'il y en a tellement de titres de Johnny. Pourquoi vous me posez
pour quelle
cette
raison
question?
J'ai choisi notamment cet album de 67, parce que c'est vous qui aviez signé. La pochette.
Je sais pas, j'en ai fait beaucoup, des pochettes.
Pour Johnny aussi,
ouais.
Ouais.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup.
Bah, la première, c'est celle-ci. En 67, il est sur fond bleu, et il a une pipe.
Ah oui, c'est celle-là.
C'est celle-là.
Parce que, alors, ça, c'est en même temps, la première séance que j'ai faite pour une couverture de Salut les copains. Ou comme c'est en 67, j'avais acheté des petites chiffres dorés pour mettre sur sa veste, puisqu'à l'époque, on avait tous des vestes façon Sgt. Pepper.
Exactement, voilà. Et il porte ça.
Voilà. Même. Et donc, Lee Hallyday, qui était son producteur de l'époque, avait absolument voulu qu'il prenne cette pipe. J'ai jamais su pourquoi. Je trouvais que c'était un peu ridicule, un peu grotesque. Pourquoi pas, quoi. Mais je me souvenais pas que c'était cette pochette-là.
Alors aujourd'hui, vous consacrez un livre de photos à votre ami de près de 40 ans, que vous avez suivi du milieu des années 60 jusqu'au concert des Vieilles Canailles en 2014. En tout cas, ça c'est pour le livre. Ouais. Un album chapitré en privé, ça tourne pour le cinéma ou sur scène. Dans les années 60, vous étiez photographe pour Salut les copains. Donc vous photographiez la galaxie Yéyé, Sheila, Vartan, Eddie Mitchell et j'en passe. Quelle image fallait-il donner à Johnny ? Quelle était l'identité visuelle qu'il fallait construire, Tony ?
Mais écoutez, avec Franck. Johnny, il y a eu beaucoup d'images. Il s'est toujours, il a toujours été en avance. Enfin, il récupérait des images de l'époque. C'est-à-dire que à un moment, il était très rock'n'roll, à se rouler par terre, etc. Comme le début du rock, Bill Haley, Gene Vincent, etc. Ensuite, il est devenu à un moment Baba Cool, enfin hippie, San Francisco, je jette des fleurs dans la salle. Etc. Il y a eu une période Jimi Hendrix.
Mad Max.
Il y a eu Mad Max.
Mad Max aussi,
exactement.
Oui.
Il y a eu Mad Max. Il y a eu. Enfin, il s'est adapté à tout. Et je pense qu'à chaque fois, ça se passait plutôt pas mal. Moi, la période que je retiens, qui m'a plu le plus, c'est au moment de soul music, de Stax, quand il y avait Otis Redding, Wilson Pickett et tout ça. Il a rajouté des cuivres. Et il a fait des adaptations que j'ai beaucoup aimées. Par exemple, il y a une chanson des Beatles qu'il a adapté, qui s'appelait « Je veux te graver dans ma vie ». Je trouvais que c'était vachement bien fait par lui. Et je me surprenais sur scène à taper tellement du pied, tellement c'était rock and roll, que je me suis dit, il faut que j'arrête, parce que les photos vont être floues. Parce que si je bouge trop, voilà.
Vous étiez où sur scène quand vous photographiez?
La plupart du temps, sur scène.
Ouais, mais quand on est sur scène, c'est-à-dire?
Ben, je bougeais dans tous les sens. C'est-à-dire que j'essayais surtout d'être discret, donc de m'habiller sombre pour pas déranger le regard du public et d'être caché dans des baffles. À une époque, j'ai surpris des gens, des jeunes photographes ou des caméramans, habillés dans les vêtements clairs. Je trouvais que c'était bizarre parce que les gens les voyaient bouger et ça disturbait, quoi. Moi, j'essayais d'être discret, d'aller à gauche, à droite. C'est-à-dire que, si vous voulez, je connaissais bien le spectacle, donc je savais à quel moment moment il fallait être à gauche, à quel moment à droite. Je regardais bien les répétitions avant. J'ai même été une fois dans les cintres. Et arrivé dans les cintres de l'Olympia, il faisait une chaleur épouvantable, puisque tous les projos étaient là-haut. Et arrivé en haut, je me dis, mais à quoi ça sert d'être là-haut, plein de poussière, puisque tu vois quelqu'un vu de dessus. Tu sais, à une époque, on faisait des dessins avec un rond et deux traits. On disait, oh, c'est un Mexicain sur une bicyclette. Et ben, j'ai eu ça. Donc, arrivé là-haut, je me suis dit, mais, j'ai fait 5-6 photos puisque j'étais là-haut. Quoi.
Ça servait à rien.
Ça servait à rien. Quoi.
Vous étiez là pendant l'Olympia où le public avait signé une pétition pour virer Johnny Hallyday. C'était en première partie de Raymond Devos.
Oui, non, c'était à l'Alhambra.
Ah, c'était à l'Alhambra.
Oui. Non, j'y étais pas, mais je connais l'histoire, oui.
Oui, et pas que vous, pour qui ça s'est mal passé.
Non. Puis moi, j'ai pas mal tout vu ça. C'est chaud de Johnny. Oui. J'ai d'ailleurs fait une chanson, moi, comment je vois Johnny sur mon dernier album, mais elle a pas tourné ni au Québec ni ici. Ça veut dire qu'elle doit pas être terrible.
Vous l'avez connu? Vous l'avez rencontré?
Ah, bah oui, beaucoup, beaucoup. Ah. Puis la dernière fois que je l'ai vu, ça a fait une bonne pochette. Il m'avait invité à manger avec Sylvie et ma femme. J'ai raconté ça ici, dans ce studio. Et puis à la fin du repas, moi, Johnny lave la vaisselle, moi j'essuie, puis nos deux femmes sont au salon, puis ils boivent du champagne.
Quelle belle vie, c'est pas mal. Oui, ça, c'est une super photo.
C'est la vérité, c'est la vérité. Et non, c'est quelqu'un qui m'a... il est venu chez moi en Guadeloupe et tout, on s'est connus. Vraiment, j'en ai des souvenirs avec Johnny énormes. Et puis le jour de sa mort, j'étais au Forum de Montréal, match de hockey sur glace, puis il y a mon fils qui me dit, « Papa, ton ami vient de mourir pendant le match. » J'aimerais être là.
Mais je vois encore...
Et c'était contre les Blues de Saint-Louis, imagine.
Plein de photos en privé de Johnny à Rome, Johnny au Canada, Johnny à Nashville, Johnny à Quiberon. Est-ce qu'il était facile à photographier hors des séances
de promo? Vous me dites en privé, mais ça ne tourne qu'autour de lui.
Bien sûr.
En voyage, il n'y a pas de trucs genre people, comme on dit, de femmes, de fiancées, je ne sais pas quoi. J'ai évité ce côté-là.
Tout à fait, il n'y a pas de photos avec Sylvie Vartan, il n'y a pas de photos. Enfin, on les voit.
Sylvie, on la voit vaguement.
Vaguement,
dans un truc
on voit
à Rio, Nathalie Baye.
De dos, parce qu'elle est enceinte.
Exactement.
Et je crois qu'il y a une photo où on aperçoit. Laetitia,
c'est tout. Mais c'est pas du tout le côté.
Non, c'est pas le côté people. Justement, est-ce qu'il était facile? Est-ce qu'il se pliait à l'exercice de la photographie?
Oui,
même qu'il n'y avait pas de séance pour faire une pochette ou quoi que ce soit.
Oui, mais parce qu'il adorait ça aussi.
Ah bon?
Oui, parce que, enfin, surtout au début, ils adoraient tout ça. Il dit tout le monde parce qu'ils avaient l'impression qu'on les mettait dans un film, ils jouaient des rôles, quoi. Parce qu'on les habillait, surtout pour Salut les copains, on choisissait des costumes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes peut-être trop jeune, mais il y avait un moment.
Peut-être.
Où Jean-Marie Perrier avait mis Dutronc habillé avec une armure, et à côté Sylvie Vartan ou Françoise Hardy en princesse, et un petit château dans le fond. On s'amusait beaucoup, donc eux s'amusaient aussi, donc c'était pas emmerdant. Mais au fil des années, ils en ont eu un peu comme tous, ras-le-bol de faire des photos, d'avoir des appareils sous le nez, parce que c'est pas rigolo. Je me dis, est-ce que d'être que mes pieds, du matin au soir, c'est pour ça que je supporte pas les paparazzis, parce que comment peut-on avoir envie de sortir de chez soi le matin en pantoufles pour aller acheter des croissants, et que d'un seul coup, il y a un type planqué derrière.
Mais quelquefois, ça donne de très belles photos. Vous savez, il y a de très bons paparazzis.
Je crois pas, non. Ouais. C'est pas mon truc. Quoi.
Alors, il y a plein d'images.
C'était avant les téléphones aussi, c'est pour ça que j'ai très peu de souvenirs. Même avec Coluche, on a travaillé 4 ans ensemble sur une maison en Guadeloupe. Ouais. Et puis, j'ai une photo avec Josiane Balasco, une en 4 ans. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, on n'avait pas envie de prendre aujourd'hui des photos. Moi, je te fais une blague, je pense que je l'ai déjà raconté ici aussi. Mais
vous avez tout raconté ici.
Un jour, je suis avec Johnny sur le bateau de Cola, puis on boit du rhum, puis on fume des pétards, on fait semblant de piloter le bateau, mais heureusement, le vrai capitaine est à 2 mètres à côté de nous. Et puis, le matin, on arrive à Marie-Galante et puis Johnny dit, on va aller prendre un décollage. Et là, on marche, on arrive dans un petit troquet. Il y a 4 tôles, il y a 8 chaises, 2 tables, mais une photo de Sylvie, délavée par le soleil, qui doit être là depuis 8 ans. Là, c'est peut-être toi qui l'as fait, et Johnny n'a pas le choix. Là. Il est assis en dessous de la photo, puis ils viennent de se quitter il n'y a pas longtemps. cette photo-là est dans ma tête, mais si j'avais eu un appareil, il me dit... Il est là, puis il se retourne, puis il voit Sylvie, puis décidément, cette fille, elle m'énervera toujours.
Non, c'est pas une photo à moi, les miennes se
délèvent pas. Voilà. Les tiennes ne passent pas au soleil.
Exactement.
Ah, d'accord.
Alors, il y a plein d'images inédites, notamment dans Ça tourne. Je pense au tournage, par exemple, de Détective, de Jean-Luc Godard. On imagine que ça n'a pas dû être facile. Mais notamment,
non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pratiquement été comme un paparazzi. Au début du tournage, j'étais planqué derrière des colonnes, parce que ça passé tourner dans un hôtel à la gare Saint-Lazare. J'étais au téléobjectif jusqu'à ce que Godard se calme, quoi. Mais c'était un truc insensé. En plus, il arrivait le matin, c'est un truc de dingue, il arrivait, il avait trois lignes écrites, et puis il disait, bon, on va faire ça, on va voir ce qu'on va faire. Et il y a des jours, il est venu, il n'y avait rien. Alors tout le monde attendait, puis il disait, bon, je sais pas. Bon, rentrez chez vous.
Non.
Ah oui, oui.
Il n'y a rien à apprendre, au moins. Ouais.
Alors c'est drôle, parce que Marie-France...
Brière. Qui n'aura jamais eu son nom autant prononcé,
c'est vrai. Et ben, l'année prochaine, ils font à Angoulême, comme invité, c'est cinéma musicale, suisse.
Ouais,
c'est cinéma suisse, donc il y aura Godard. Voilà.
Il y a quand même une photo où on voit sourire Godard. D'ailleurs, il est autour d'un billard, absolument. Il y a Godard.
Oui, on voit sourire Godard.
Oui, oui. Exactement. Oui. En revanche,
c'est la même année que Sardou.
attends, ne dis pas ça parce que.
Ou Borg avait souri en 82.
Un jour, attends.
C'est vrai?
Tu rigoles, mais un jour, je fais des photos pour une affiche de Sardou. Et au dernier moment, je fais une autre photo où Sardou rigole. Donc ils ont arrêté la
séance.
Ils ont arrêté. À l'imprimerie, ils ont arrêté l'affiche pour mettre la photo de lui en affiche en train de rire. Ce qui était un scoop. Donc j'ai deux scoops dans la vie, Sardou riant et Godard riant.
Il te manque juste Isabelle Bonne. Comment Elisabeth Bonne?
Elisabeth. Et alors là,
tu peux faire une exposition. Ouais. Là, ta carrière
complètement réussie.
Là, tu clenches
trois
tout
photos,
le monde,
une galerie.
Ouais,
c'est parfait, Tony.
Là, on peut plus lutter. Là.
Non, mais sur cette photo, donc Godard rit, mais en revanche, Claude Brasseur tire la gueule. Donc il y en a toujours un des jeux.
Parce qu'il y a une ambiance très étrange sur ce tournage, quand même.
Vous avez suivi Johnny pendant toutes ces années, donc en voyage privé, sur scène, sur les clips. Qu'est-ce qu'il vous demandait? Est-ce qu'il vous demandait des choses particulières? Est-ce que, par exemple, par rapport à son image, il y avait des choses qu'il ne voulait pas voir, Tony Franck?
Non, parce qu'il avait, je crois, très confiance en moi, donc ce que je faisais, où je montrais à chaque fois, de toute façon j'ai toujours montré les photos aux gens pour qu'ils soient satisfaits, et je pense qu'il avait entièrement confiance, à tel point qu'une fois, vous savez, quand on se met à côté d'une caméra, quand les gens tournent un clip ou un film, vous êtes un peu dans le regard du comédien ou de l'acteur. Donc à un moment je lui dis, attends, je suis heureuse d'être dans ton regard. Il dit, mais non, parce qu'à force je te vois plus, quoi. Alors j'ai d'abord été un peu vexé, puis finalement c'est quand même un compliment, parce que ça prouvait que je dérangeais pas du tout, quoi.
Quelle a été la période la plus photogénique pour vous de Johnny?
Aïe, quelle question.
Moi j'adore la période en 69, torse nu, à côté d'une Harley. Je crois que je ne sais plus où c'est dans
ce
cadre.
Ça c'est à Rome,
ouais, c'est ça.
Quand il a tourné ce
Western
spaghetti, copie d'un truc.
Il n'y a pas que vous qui avez tourné
le Western spaghetti. Je suis en bonne compagnie, je me plains pas.
C'est pour ça que je regardais Robert.
Tout le monde a tourné.
Tu étais là quand il est venu à Montréal avec Sylvie, non? Parce que Guy Latraverse avait réussi à faire venir les deux. T'étais pas là?
Non, moi j'étais venu dans un truc incroyable avec... comment il s'appelait, Pierre David.
Oui.
Non, c'est un truc comme ça, avec CJMS, où il y avait des bandes rivales de Popeyes.
Oui.
Il y a eu tout un scandale, il a fallu chanter avec la lumière allumée, parce que les Hells...
C'est-à-dire Hells, division des Hells Angels, un chapitre.
Et qui voulait absolument... Johnny avait été nommé président dans ce chapitre à Québec, et arrivant à Montréal, ils étaient jaloux. Donc ça, il a fallu... Ils ont voulu annuler les spectacles, enfin les organisateurs, et finalement ils ont accepté que Johnny fasse le spectacle lumière allumée, et sur scène les musiciens et moi on était morts de trouille, parce qu'on se disait, si on a un qui essaye de flinguer Johnny, qui le rate, c'est nous qui allons prendre, quoi.
Surtout qu'il y a déjà eu des problèmes de balles en plus avec Johnny. Vous avez vous aussi failli recevoir une balle?
C'était à Montréal, ouais. Oui. On était dans un diner.
Je reviendrai à Montréal avec ma veste anti-balles. Faut que je l'ajoute.
Manifestement. Alors, il y a toutes les photos de scène qui sont vraiment excellentes, mais notamment, il y a aussi une vraie fausse photo de scène, celle qui a été shootée en studio pour l'affiche du Zénith de 1984.
Ah oui, oui. Ah, ça, c'est assez drôle, parce que, comme je voulais que ça soit vrai, c'est un tout petit studio. Alors, j'ai mis des éclairages derrière. Alors, comme à l'époque, il y avait à peine de machines à fumer, tout ça, donc il y a un assistant derrière qui envoie qui fume des cigarettes pour faire de la fumée derrière Johnny.
Wow.
Le mec, au bout de 10 cigarettes, il me dit, attends, j'arrête, j'en peux plus. Alors finalement, on a changé, on a pris des bombes bombes d'Evian pour marquer les spots derrière. Et puis, donc, je dis à Johnny, il faut que tu chantes, quoi. On lui a mis la su- sueur et tout ça. Il avait mis un genre de playback.
Vous l'aviez mis de la sueur.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, au bout de...
Vous ne reculiez devant rien. Non, vous aviez tous les moyens.
Non, mais surtout...
Gros budget.
Surtout, ce qui est incroyable, c'est que... Donc, il a surtout chanté tout seul pour moi. Et au bout de... Ça a duré 2 minutes. Il m'a dit, tu commences à m'emmerder avec ce truc. Ça suffit comme ça. Et finalement, tout le monde était très content de la
fiche. Et ça a été l'affiche du Zénith. Ah, ouais. C'était formidable.
Et pourtant, il a fumé... Il a donné pour les paradis artificiels. Il a beaucoup bu. C'est pas une rumeur, là, moi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup bu aussi, mais j'arrivais deuxième, là, avec lui, c'est sûr. Ouais.
Ouais. Ah, ouais.
On se quitte sur un des meilleurs représentants de la folk française, Baptiste W. Hamon. Vous connaissez ?
Non.
Ah non, moi non plus.
Il vit où, Marion Guilbeault, Baptiste W. Hamon ?
Aucune idée.
Enfin, moi non plus, je crois qu'il vivait au Québec. Il nous entraîne jusqu'à la lumière, sur France Inter.
C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, on voit bouger des lèvres. Face au miroir, on se demande encore à qui l'on a affaire. Et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences? Doit-on croire en cette chance? Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Et sous tes pas, des sourires que tu ne vois pas, qui t'éclairent. Et ton visage déjà qui se tourne en arrière. Tu ne vas pas là où pourtant tes rêves t'ont guidé. Tu dis c'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Ils sont devenus quoi tes amis? Sont devenus qui? Ils ont fait des enfants pour combler leur ennui. Mais toi, qu'as-tu appris? Tu dis c'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Avance, 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 ne retiens pas ta peine.
Et bien voilà, côté club, c'est fini
non.
pour ce soir. Mais si, Robert Charlebois, vous serez en concert le 30 mars à Liège, ce pays en Belgique
oui.
à qui vous devez tant. Et puis le 1er avril au Grand Rex à Paris oui. pour ce spectacle unique et exceptionnel, Robert en Charlebois-scope. Tony Franck, merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Le livre, c'est Johnny Hallyday, Les années Tony Franck. Il vient de paraître aux éditions EPA. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
Vincent Delerme, j'aime beaucoup votre disque, les paroles, la musique. Je ferai quand même un petit reproche. Les Queens.
Vincent Delerme fêtera demain ses 20 ans de discographie. À ses côtés, La Féline retourne à Tarbes. Et pour vous, Marion ?
Ce sera le soir des Nouveautés Nouvelles. 3 sons à découvrir, ceux de Lucie dans le ciel de Palatine et de Maxime Kerzanek.
Je remercie toute l'équipe de Côté Club, ce sont des winners. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Benjamin Troncin, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, retenez ses noms, c'est la programmation. Et enfin, en playlist, c'est Valentine Chedebois. Côté Club, on tire le rideau de fer. Que la musique, eh bien, saute avec vous.
On commence du début. Côté.
Oui.
Club.
Bye.